Vous êtes sur RTL.
8h.
100 Parisot, RTL Matin.
Et Mathilde Romagnan, évidemment, est là pour le journal. Bonjour Mathilde.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Le virus ne prend pas de vacances. Les clusters se multiplient sur les lieux de villégiature, de quoi inquiéter les autorités sanitaires. Une semaine avant sa mise en place, le pass sanitaire est déjà actif en Haute-Corse, dans des restaurants test. Et puis les JO à Tokyo, les Bleus ont déjà au moins une victoire à leur actif en handball. On fera le point avec Isabelle Langer en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, on fait un point sur vos conditions de circulation. Avec vous, Sarah Loubacouche, ça commence déjà à bouchonner dans la vallée du Rhône.
Et oui, parce que pour ce grand week-end de départ en vacances, Bison Futé a hissé le drapeau rouge, Mathilde, et a raison, parce que c'est déjà chargé sur les routes. Vous l'avez dû particulièrement en vallée du Rhône, dans le sens de la descente. La 7, l'autoroute qui vous emmène au soleil, se densifie, c'est déjà bloqué par endroits, notamment aux abords de Valence, hein, qu'il faut être très très patient pour traverser. Ça bouchonne sur une bonne vingtaine de kilomètres de part et d'autres de Valence. Donc, on s'accroche parce que le pic de bouchon est loin d'être atteint. Il est attendu, comme d'habitude, pour la mi-journée. Bon courage à tous.
Voilà, courage, tranquille, on n'est pas pressé. Et puis, si les enfants s'agitent un petit peu, on s'arrête 5 minutes. Et de toute façon, on vous retrouve à 10h, Sarah Lou, pour un nouveau
FR.
Et l'autoroute A7, on y reste sur l'aire de Solèze à la sortie de Lyon. On retrouve Frédéric Perruche. Bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Les vacanciers sont déjà nombreux à faire une pause avant d'aller vers le sud.
Oui, une pause bienvenue sur cette aire de repos déjà bondée pour Johan, Aurélie et leurs trois enfants après 8 heures de route fatigante de nuit.
On vient d'Amiens et on va à côté de Cannes.
Et la route, c'était comment ?
Très dur. Beaucoup de pluie, beaucoup de monde, on n'a pas le choix.
On arrête, ouais. Ouais, ça va faire du bien. Ouais, ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti, ça va nous faire du bien.
Besoin de respirer.
Ouais, besoin de souffler, de se retrouver, d'être bien. Quoi. La plage et la piscine.
La mer. Aller voir la mer, ouais. Mettre les pieds dans le sable, puis profiter de la journée.
Objectif, la Grande Bleue également pour la famille d'Abdel, pressée d'arriver à destination à Port-le-Cat, tout près de Perpignan.
À la plage, le soir se balader et le matin dormir.
Dormir aussi.
Ah oui, dormir le matin.
Une petite sieste,
oui.
On va profiter de la mer et d'eau et bronzer aussi.
De bronzer, toi.
Se reposer, profiter en famille. Se balader, la mer, se ressourcer, voilà.
Encore quelques heures de patience sous un ciel menaçant et des bouchons qui commencent à grossir entre Lyon et Valence.
Merci Frédéric Perruche, vous étiez sur l'aire de Solèze sur l'autoroute A7 pour RTL.
Alors, beaucoup plus à l'ouest, une vingtaine de clusters ont été détectés dans des campings en Vendée.
L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire rappelle l'importance des gestes barrières. 89 cas de Covid-19 ont été identifiés sur des animateurs et des vacanciers. Le préfet de Vendée a pris des mesures pour limiter la propagation du virus et c'est nécessaire, selon François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Le préfet, en revanche, a interdit la vente d'alcool sur la voie publique. Il a interdit la diffusion de musique amplifiée sur nos plages pour essayer d'éviter les rassemblements. Voilà, donc ça, c'est deux types concrets de mesures qui viennent d'être prises sur tout le territoire vendéen. Nous, on a une discothèque qui avait choisi de rouvrir et puis qui finalement vient de choisir de refermer puisque le protocole sanitaire est un peu compliqué à mettre en place. Donc on s'adapte, mais vous savez, depuis un an et demi, pour les élus, c'est une adaptation permanente. Donc cette adaptation continue en plein cœur de l'été. C'est pas le plus facile à gérer, mais les élus sont habitués à fonctionner comme ça.
Les propos recueillis par Olivier Bois. Deux clusters ont également été repérés dans les Vosges et dans le Doubs, dans des boîtes de nuit. En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS appelle à la vigilance. Le taux d'incidence a triplé dans la région en quelques jours. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissier, estime qu'on atteindra les 50 000 contaminations par jour au début du mois d'août si des mesures urgentes ne sont pas prises. Une de ces mesures, c'est l'extension du pass sanitaire. Le texte est débattu en ce moment au Sénat. S'il est adopté début août, il faudra être vacciné ou présenter un test négatif pour se rendre au restaurant. En Haute-Corse, il est déjà expérimenté, se passe dans 13 établissements. Sur l'île de Beauté, le nombre de cas est en hausse à cause de la saison touristique. Laetitia Giannichini, la mesure a été bien mise en place hier soir et pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
Vous avez votre passe ?
Oui.
Je vais flasher votre QR code.
Un flash et c'est bon.
Au bar de la Tour, aucun client n'échappe à Didier et à son smartphone. Et bonne nouvelle, la plupart de ses clients a bien un pass sanitaire en règle.
C'est vrai que les touristes, pour venir en Corse, ils étaient obligés de faire le test, le pass sanitaire. Donc eux, ils l'ont obligatoirement, hein, on est d'accord. Par contre, il y a des gens qui sont peut-être surpris une fois qu'on leur explique les choses. Ça dure 2-3 minutes, mais non, ça se passe bien en général.
Assise un peu plus loin, Eliane se prête au jeu malgré ses réticences.
Je trouve que dans les restaurants, c'est extrême. En fait, ça dépend les lieux. Je trouve qu'il y a des lieux que je trouve normal, comme les boîtes de nuit. Mais les restaurants, ça me paraît très extrême. Parce que nous, on est en extérieur et puis qu'on part du principe qu'il y a moins de contamination en extérieur.
Durant cette première semaine d'expérimentation, les clients sans pass sanitaire pourront tout de même être admis dans les établissements. Et ce, jusqu'à la généralisation du dispositif le 1er août.
Laetitia Giannichini en Corse pour RTL. Olivier Véran tente de convaincre les vaccino-sceptiques. Le ministre de la Santé a rencontré les lecteurs du journal Le Parisien réticents à la vaccination. Il assure notamment qu'il n'y aura aucun risque d'infertilité lié au vaccin et que le pass sanitaire sera levé dès que la situation s'améliore en France.
On va marquer une très courte pause dans votre journal. Dans un instant, l'alerte contre les cyberattaques et puis les skaters bleu, blanc, rouge. À tout de suite.
Vincent Parisot, RTL Matin.
Et la suite du journal de Mathilde Romagnon avec les cyberattaques. Ça n'arrête pas, évidemment, depuis des mois, voire des années. Entre 5 et 10% des entreprises seraient victimes de ces cyberattaques.
Oui, et souvent, ces entreprises, notamment les plus petites, n'y sont pas préparées. Alors, pour mieux les combattre, le MEDEF lance un système d'alerte. L'objectif, avertir directement les patrons concernés. Explication, Nerissa Emani.
Alors, cela se présente comme un message d'alerte météo. Dès lors qu'une cyberattaque est détectée et qu'elle représente une menace pour un grand nombre d'entreprises françaises, les services de l'État préviennent le MEDEF qui va envoyer immédiatement un message sous forme de mail ou de SMS à tous les chefs d'entreprise qui pourraient être concernés. Explication de Christian Poyot, coprésident de la commission Mutation technologique et impacts sociaux du MEDEF.
C'est un message qui est rédigé de manière très lisible et accessible, qui les informe qu'il y a une attaque sur tel ou tel type de matériel, qui leur donne des indications générales pour contrer ou bloquer cette attaque. Donc comme faire des sauvegardes, changer les mots de passe, ne pas ouvrir n'importe quel mail. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, quand elles sont attaquées, ne préfèrent pas communiquer, ne pensent peut-être même pas d'ailleurs à porter plainte. C'est une bêtise, il faut communiquer. Tout le monde, de toute façon, malheureusement, a des exemples d'attaques, donc c'est pas une honte de se faire attaquer. Il faut simplement qu'on agisse collectivement pour prendre la mesure et contrer les attaques et surtout ne pas freiner le développement dans le numérique des entreprises françaises.
D'après la Confédération des petites et moyennes entreprises, 5 à 10% des sociétés françaises ont déjà été touchées par une attaque informatique.
Le reportage de Nerissa Emani pour RTL.
RTL à Tokyo.
Les Jeux ont donc commencé aujourd'hui avec de nouveaux sports au programme de cette édition.
Oui, 5 nouveaux sports qui font leur toute première apparition olympique et parmi eux le skateboard. 5 skateurs français vont tenter de remporter une médaille. Nicolas Burnand les a rencontrés.
Casquette vissée sur la tête, Vincent Milou, 25 ans, a longtemps rêvé de participer aux Jeux. Avec son skate, le champion d'Europe de sa discipline n'en revient toujours pas d'être au village olympique.
J'ai pas l'impression que les athlètes nous voient différemment ou pas. Je pense qu'on est tous sur le même pied d'égalité ici et peu importe le sport que tu fais. J'ai une drôle d'expérience avec quelqu'un qui m'a conseillé de ne pas me blesser en me déplaçant en skate dans le village. Je trouvais ça assez drôle. Du coup, vous n'avez sûrement pas encore conscience qu'on était là et que c'était un outil de travail, quoi.
Né aux États-Unis sur les trottoirs des villes, le skateboard, désormais sport olympique, est un parcours d'obstacles à franchir, des escaliers, des rampes, des plateformes inclinées où il faut enchaîner le maximum de figures. Le pro Aurélien Giraud, installé en Californie, est l'un des grands espoirs de médaille pour la France.
Ça va nous donner plus de visibilité et faire grandir le sport, donc il y aura sûrement plus de jeunes qui voudront s'y mettre ou même de personnes plus âgées. Donc je trouve ça cool et que les gens découvrent notre univers et c'est vraiment une fierté. Je me donnerai encore plus à 1000% que je le ferai pour moi-même, pour notre belle France.
À Tokyo, la concurrence sera rude pour les tricolores dans le parc des sports urbains d'Ariac. Les Japonais, les Américains partent favoris.
Et sur place, Isabelle Langer nous fait vivre ces Jeux à Tokyo. Bonjour Isabelle.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Et même si l'ambiance est un peu morose, sans supporters en handball, les Bleus ont brillé face à l'Argentine ce matin.
Ah oui, ça a été une promenade de santé pour les hommes de Guillaume Gilles. Un match sérieux, appliqué, même s'il y a eu un petit relâchement en fin de partie. C'est-à-dire qu'il faut aussi un maximum de motivation pour disputer une partie dans un Yoyogi Stadium qui sonne bien creux et dont l'ambiance ressemble plus à une kermesse d'école. Vous savez, quand il n'y a personne, juste quelques quelques parents. Là, ce sont les coéquipiers sur le banc de touche qui faisaient office de supporters. Et parmi les belles satisfactions du jour, Melvin Richardson, meilleur buteur tricolore, avec 7 ballons au fond des filets, tous inscrits en seconde période. Écoutez le fils du grand Jack, qui sera d'ailleurs votre invité tout à l'heure à 8h50, au micro de nos confrères de France Télévisions.
On avait à cœur de bien rentrer dans cette compétition. Le premier match, c'est toujours important. On ne sait jamais, ça peut être un match piège, ça peut être un match compliqué. Et on l'a plutôt bien maîtrisé du début jusqu'à la fin, même si on s'est fait un peu peur en fin de première mi-temps. Et donc voilà, on s'attend à un gros gros match contre le Brésil dans deux jours.
Les vice-champions olympiques en titre retrouveront en effet le Brésil lundi. Rappelons qu'ils doivent se classer parmi les quatre premiers de leur groupe de 6 pour accéder au quart de finale et qu'ils ont hérité de sacrés adversaires puisqu'ils devront également défier l'Allemagne, les doubles champions d'Europe espagnole et la Norvège.
Merci Isabelle Langer à Tokyo pour RTL. Déception en revanche ce matin pour les tennismen français Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert qui ont été éliminés dès le premier tour du tournoi de double. En revanche, Jérémy Chardy s'est qualifié pour le deuxième tour.
Ça, quand même, ils avaient tant brillé à Roland-Garros, oui, Mahut et Hugerbert. Donc, éliminer le premier tour. Merci beaucoup. Merci. Vous venez tout à l'heure, évidemment.
Évidemment. Pour...